Romains chapitre 5, versets 1 à 5. Il est vrai qu'il existe un bon paquet, un bon nombre de religions dans le monde. Il y en a tellement, et on ne sait pas vraiment exactement, même dans les statistiques, combien il y en a. Mais en général, il n'y en a que deux catégories de religions qui existent au monde. Deux catégories. La première catégorie, c'est une religion ascendante, c'est-à-dire les religions qui véhiculent ce qui va en montant, en progressant. Dans cette catégorie, l'individu est appelé à faire des efforts. Il faut que tu fasses des efforts assez considérables pour plaire à Dieu. Et dans cette catégorie, on prêche une théologie de performance. Il faut que tu pries au moins 3 heures par jour. Il faut que tu lises ta Bible le matin, midi, soir. Il faut que tu fasses ceci comme s'il y a des obligations à faire, comme d'autres religions aussi. Vous savez très bien. Tandis que dans la deuxième catégorie de religion, la religion que je peux qualifier de descendante, c'est l'opposé de ce que je dis tout à l'heure. On ne fait rien. C'est Dieu qui fait tout. Et ça, l'homme ne peut pas l'accepter. Parce qu'il a l'habitude de faire quelque chose. Mais c'est ça l'évangile. C'est Dieu qui descend, c'est Dieu qui annonce, c'est Dieu qui exécute, c'est Dieu qui fait tout. Non seulement il annonce l'évangile, mais il l'exécute lui-même et il le fait tout pour nous. Rappelez-vous du jeune richissime qui venait vers Jésus avec une bonne motivation peut-être pour nous, avec une envie de faire quelque chose. Voici ce qu'il disait. Que dois-je faire ? Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? Et c'est toujours la question que nous aussi, nous voulons toujours poser à Jésus. Qu'est-ce que je dois faire pour toi, Jésus ? Pour avoir la vie éternelle ? Et c'est là le problème. Tu ne peux rien faire pour avoir la vie éternelle. Ce texte nous montre que tout est par grâce. C'est vrai que ça fait depuis pas mal de temps, depuis que vous êtes chrétien, que vous avez pu entendre cette parole d'évangile, qu'on vous rabâche que je suis sauvé par la grâce. On le sait même presque comme une formule magique. Mais entre autres, nous nous disons aussi entre nous, comment tu vas ? Je vais bien par la grâce de Dieu, ça devient une formule. Même si on ne va pas bien. Mais en fait, la grâce, elle nous gêne, cette grâce de Dieu. Cette grâce nous perturbe, notre orgueil. Regardez dans ce texte, Paul martèle que nous ne sommes pas justes, mais nous sommes justifiés. C'est-à-dire que cette justification nous adhère à Dieu. Ce n'est pas nous qui avons eu l'initiative de venir vers Dieu. Nous n'avions pas l'accès ou le code pour aller vers Dieu. C'est étonnant, quand j'ai préparé cette méditation, les garçons criaient dans leur chambre, je suis venu, je dis doucement. Et Aaron qui m'a répondu, il nous faut le code si tu veux entrer dans notre chambre. Je dis, ah, merci Seigneur pour cet exemple pour ma prédication. Mais c'est ça, on n'a pas le code, on n'a pas les moyens de venir à Dieu. Mais par le Christ, nous pouvons avoir accès à Dieu. Nous pouvons voir que Paul frappe un coup très dur sur notre ego au verset 2 et 3. Du texte, il utilise le mot fierté, fierté. Mais cette fierté, elle est rattachée à quoi ? en l'espoir de la gloire de Dieu. Et au verset 3, il rajoute encore une couche en disant que nous devrions mettre notre fierté dans nos tourments. Mais normalement, quand on parle de fierté, il s'agit de nos performances, n'est-ce pas ? Ah, je suis fier de toi, mon fils, parce que tu as fait des efforts à l'école. Je suis fier de toi parce que tu as fait ceci ou cela. Mais ici, la fierté ne dépend plus de nous ou de notre identité. Ici, la fierté est liée à ce que Dieu a fait pour nous et non ce que nous avons fait pour lui. C'est vraiment cette religion qui est vraiment totalement différente, que le monde ne connaît pas. Donc nous ne pouvons plus avoir d'orgueil, parce que tout est par grâce. Alors tout ce que nous faisons, que ce soit nos dévouements, nos implications au ministère de l'Église ou dans n'importe quel ministère pour l'évangélisation, ne devrait pas être fait pour plaire à Dieu ou pour attirer sa sympathie. Mais ce que je fais au nom de Dieu n'est qu'une forme de reconnaissance envers celui qui m'a tout donné. Il m'a déjà tout donné, le ciel, la vie éternelle, son Fils. Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux que le Fils de Dieu ? Mais il m'a tout donné. Donc à côté de cela, ce que je fais n'est rien du tout. Même si peut-être devant les gens, tu en fais beaucoup pour le Seigneur, mais c'est rien à côté de ce que j'ai déjà reçu. Donc, il se peut que nous faisons des choses énormes et extraordinaires, dont la motivation est pour plaire à Dieu. Alors là, ces œuvres ne sont plus des bonnes œuvres. Elles deviennent corrompues. Et David avait posé la bonne question. « Ô Éternel, comment rendrai-je au Seigneur tous ses bienfaits envers moi ?» C'est ça la bonne motivation. Qu'est-ce que je vais faire pour remercier le Seigneur ? Revenons au verset 3, cette phrase qui dit « Nous mettons notre fierté dans nos tourments. » Est-ce que vous ne trouvez pas cette déclaration comme bizarre ? Qui dans ce monde pourrait être fier de ses tourments ? Qui ? Au contraire, ce qui se passe dans nos vies, nous avons plutôt honte quand les autres connaissent que nous avons beaucoup de problèmes. Et surtout entre chrétiens. Ah, s'il a beaucoup de problèmes celui-là, est-ce qu'il a beaucoup péché ? Peut-être. Qu'est-ce qu'il a fait de mal dans sa vie ? C'était le réflexe même des disciples. Oh Jésus, qui est-ce qui a péché ? Lui ou ses parents ? Vous voyez, ça c'est notre réflexe à nous. Et surtout entre chrétiens. C'est bizarre comme réflexe. Donc on a honte de dire, voilà, je suis en difficulté. Parce qu'on a peur du jugement de l'autre. Pourquoi Paul a-t-il dit cela alors ? Où veut-il en venir ? S'il dit, nous mettons notre fierté dans nos tourments. Nos tourments, pour Paul, nous rend un constat que nous ne pouvons rien faire pour nous sauver nous-mêmes. Quand nous nous disons « Je suis abattu, je n'ai plus de force de lutter, je n'ai plus de force pour me battre dans la vie », c'est ça la bonne nouvelle. C'est ça l'objectif voulu par Dieu. Parce que quand nous sommes vraiment conscients que nous sommes faibles, nous adhérons plus facilement au Seigneur. Et ça, je vous l'assure. Parfois, dans nos pratiques pastorales, pendant presque 15 ans que je suis pasteur, j'ai beaucoup vu des choses dans ce ministère. Parfois, nous sommes désemparés face au refus de nos amis, de notre famille qui refuse catégoriquement le message de l'Évangile que nous voulons tellement partager avec eux. Et on a envie qu'ils acceptent vite fait, tout de suite ou demain. Mais il faut être patient. Soyons patients, attendant le moment de Dieu. Parce que quand les hommes n'ont plus de recours et plus de personnes à qui se tourner, ce sera ce moment-là le bon moment pour lui tendre la main. Parce qu'ils seront désarmés. Et quand l'homme est désarmé, tous les boucliers tombent. Tous les boucliers tombent. Il n'y a plus d'arguments possibles. Il n'y a plus de philosophie à faire. Il est faible. Il devient vulnérable. Et c'est là qu'on a besoin de toi. Et à ce moment-là, si tu viens vers eux, n'est pas un message de jugement. Parce que parfois, on rajoute encore. Tu vois ce que tu as fait? C'est parce que tu as fait ceci et cela? Non. Là, il faut une main pour le relever. C'est ce que Jésus a fait à chaque fois. Si l'apôtre Paul a fait ce constat, c'est parce qu'il l'a vécu dans sa chair. Il avait demandé 3 fois au Seigneur qu'on lui ôte les chardes dans sa chair. Ça, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a eu. Mais paraît-il, d'après plusieurs biblicistes, que Paul était chétif. Il avait une maladie en lui qui était incurable. Et il a prié le Seigneur. Lui qui imposait sa main sur les malades, tous ces malades étaient guéris. Lui qui avait tant de miracles. Or, lui, il était malade. Et il n'était pas guéri. 3 fois que j'ai supplié le Seigneur. Mais voilà ce que Jésus lui a répondu. À cause de l'excellence de ses révélations, dit-il. Aussi pour que je ne sois pas trop orgueilleux. C'est Paul qui parle ici. Il m'a été donné une écharde dans la chair. Un ange de Satan pour me frapper. Pour que je ne sois pas trop orgueilleux. 3 fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12, 7 à 10. Voilà la réponse à la prière. Dieu aussi parfois nous répond, mais nous ne voulons pas écouter cette réponse quand il dit non, mon fils. Nous, on pense que quand on a reçu une réponse à nos prières, c'est toujours un oui. Mais quand on pose la question, soit c'est un oui ou un non, c'est toujours une réponse, n'est-ce pas? Mais nous, dans notre culture, à nous, ah, j'ai une réponse à ma prière. On attend toujours par la suite, ah, c'est un oui. Mais une réponse peut aussi être un non. Et tant que nous sommes sur cette terre, nous avons toujours un combat à mener. Ce combat, ce n'est pas contre la force du mal ou contre une autre personne, puisque Jésus l'a déjà vaincu à la croix. Mais ce combat acharné, c'est contre notre ego. Notre moi. Contrairement à ce que nous croyons, mes chers frères et sœurs en Christ, nos tourments contribuent largement à notre épanouissement spirituel. Mais quand nous sommes dépouillés de toute assurance en soi, nous aurons constamment besoin de l'assistanat du Saint-Esprit. Parce que le message du monde, quand on essaie de te faire comprendre, il faut que tu sois sûr de toi. Ni Dieu, ni maître, je suis le maître de mon corps. Ça, c'est le message du monde. Ce mot sistana est un mot dégradant. On n'aime pas trop ce mot. Mais en matière de foi, c'est la source de notre force. Dans le verset de tout à l'heure, dans 2 Corinthiens 12, verset 9, il est dit, « Je mettrai donc bien plus volonté ma fierté dans mes faiblesses pour que la puissance du Christ repose sur moi. » Vous voyez, la puissance repose sur mes faiblesses. Alors, je crois qu'il n'y a pas de message d'espoir plus que cela. Surtout dans un monde où, quand tu n'as rien, ni personne à qui s'appuyer, tu n'es rien. Tu n'es personne. Mais l'espérance chrétienne se fonde sur le néant. Ce qui est tout à fait insensé. Et même une folie pour le monde d'entendre un tel message. Le message de Dieu, c'est notre foi chrétienne est basée sur le néant. Cela pourrait même choquer le monde. Mais n'oublions pas que ce Dieu en qui nous mettons notre espoir, il a créé le monde à partir du néant. Ça, on l'oublie, hein. Ce que nous savons, oui, c'est un Dieu créateur, mais il l'a créé à partir de quoi? De rien. Oui, ça, c'est ton Dieu. Et c'est sur ça que repose mon espoir. Donc, quand tu n'as rien, C'est là que Dieu commence à faire quelque chose. Mais quand tu as encore quelque chose, ah oui, je vais faire ceci, cela, plan B, plan C, plan D. Oui, vas-y, vas-y, mon enfant, vas-y. Quand tu seras fatigué, reviens vers moi, puisque je suis le Dieu du néant. L'espoir chrétien est presque une espérance non identifiée, si je peux me permettre de cette expression, comme l'OVNI. On ne sait pas d'où vient cette espérance. Elle vient de d'où? Quand tu vois des frères, des sœurs en Christ qui arrivent toujours à être dans la joie, pourtant tu sais de quoi ils vivent, qu'est-ce qu'ils traversent en ce moment, mais d'où vient cette joie? On ne peut pas l'expliquer. C'est ça l'espoir. C'est ça ce que Dieu fait. Il le met dans le cœur et le monde est étonné. Misons alors notre espérance uniquement sur le Seigneur et non pas sur ce que nous avions pu faire. Car cela n'est pas une valeur sûre. Ne mettons pas non plus notre espérance même sur nos bien-aimés, notre famille, à ce que nous croyons les plus proches. Parce qu'il y a un verset qui fait trembler dans Ésaïe chapitre 2 verset 22. Cessez de compter sur l'homme. Sa vie ne tient qu'à un souffle. Quelle valeur lui reconnaître? Je me rappelle bien le jour où j'ai perdu mon père, dans l'âge, au moment où j'ai vraiment besoin de lui, à 13 ans. Mais oui, là j'étais conscient qu'on ne peut pas même se confier, même à son propre père, qu'on pensait être le plus fort, n'est-ce pas, quand on est enfant, mon père est le plus fort. Mais non. Mais bâtissons notre espérance sur celui qui ne vous décevra jamais. Voilà ce qu'il dit dans Psaume 91, verset 14. « Puisqu'il s'attache à moi, je le libère. Je le protégerai, car il connaît mon nom, dit l'Éternel. » Amen.